nos services francophones vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, édition du 28 octobre 2014. En direct du Studio 13 à Washington, chez Rubin Dorcil et Morgane Guériec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, mobilisation monstre à Ouagadougou contre le projet de modification de la Constitution.
Le moins que l'on puisse dire est que l'opposition a réussi deux batailles ce jour. Celle de la mobilisation des populations et celle faisant de Ouagadougou une ville morte.
Reportage à suivre de Zoumana Wonogo.
Dossier Ebola, la deuxième infirmière américaine, infectée et maintenant hors de danger.
Nous aurons aussi les réactions du Mali suite à l'introduction du virus dans le pays.
Les Kurdes irakiens volent au secours de leurs frères assiégés par l'État islamique dans le nord de la Syrie.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission comme chaque jour, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, la journée de manifestation nationale contre la révision de la Constitution a mobilisé près d'un million de personnes, selon les organisateurs, à Ouagadougou. Cependant, il y a eu des heurts avec des forces de l'ordre avant le départ du cortège. Ablassé Ouédraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui coordonnateur national de l'opposition burkinabé.
On peut estimer à plus d'un million le nombre de Burkinabés qui ont fait le parcours sur le circuit à Ouagadougou. Ce sont des patriotes burkinabés qui veulent barrer la route à tout prix à la modification de l'article 37 de notre Constitution. Le projet qui est actuellement sur la table des députés demande un renouvellement de deux fois, c'est-à-dire qu'au lieu de 10 ans, vous pouvez rester au pouvoir pendant 15 ans. C'est trop long, surtout quand vous avez déjà assumé pendant 28 ans la charge de l'État. Le peuple burkinabé est debout comme un seul homme pour demander au président Compaoré et à son équipe de retirer dans les meilleurs délais le projet de loi modifiant l'article 37 qu'il a introduit à l'Assemblée nationale. Président Compaoré, avec tout le respect que nous vous devons, écoutez l'appel de votre peuple.
Ablassé Ouédraogo, coordinateur national de l'opposition burkinabé.
Les élections en Tunisie ont placé au devant de la scène un homme, Kaïd Essebsi, chef du parti Nida Tounes. Âgé de 87 ans, il se positionne en favori de la présidentielle du 23 novembre prochain, après la victoire apparente de son parti aux législatives, Jean-Roger Bion.
Sous la houlette de Kaïd Essebsi, Nida Tounes a mené d'après l'AFP une campagne très dure contre les islamistes et capitalisé sur le ras-le-bol des Tunisiens en promettant de rétablir le prestige de l'État. Revenu sur le devant de la scène à la faveur de la révolution qui a renversé le président Zinedine El Abidine Ben Ali en janvier 2011, cet avocat de formation avait été nommé premier ministre provisoire en février 2011. Il a à son crédit d'avoir mené le pays vers les premières élections libres de son histoire en octobre 2011 remportées par les islamistes d'Ennahda. Mais ce ministre de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères sous le premier président tunisien Habib Bourguiba, puis président du Parlement en 90-91 sous Ben Ali, est accusé par ses adversaires d'être un produit du Sérail, cherchant à reproduire l'ancien régime. Alors que tous les regards convergent vers ce vétéran de la politique tunisienne, il a jugé prématuré des tractations sur la formation du futur gouvernement, tout en promettant de gouverner avec les autres. L'instance organisant les élections, l'ISIE, n'a pour le moment annoncé que des résultats très partiels et la répartition des sièges au Parlement n'a pas été divulguée. L'ISIE a jusqu'au 30 octobre pour proclamer les résultats définitifs.
Épidémie d'Ebola, la deuxième infirmière américaine infectée est désormais guérie. Elle doit sortir cet après-midi de l'hôtel Emory, près d'Atlanta. Les précisions de Michel Joseph.
Amber Vinson avait été contaminée dans un hôpital de Dallas en soignant le Libérien Thomas Eric Duncan, mort de l'Ebola le 8 octobre. Sa contamination avait suscité une vague d'inquiétude aux États-Unis car elle avait voyagé en avion après avoir signalé une faible fièvre. Nina Pham, l'autre infirmière infectée par le patient libérien, est elle aussi guérie. Elle a quitté l'hôpital la semaine dernière. À ce jour, le seul patient infecté aux États-Unis est le docteur Craig Spencer, en quarantaine dans un hôpital à New York. Au total, 9 personnes ont été traitées pour l'Ebola aux États-Unis. 7 sont guéries. Autre bonne nouvelle, au Libéria, la Croix-Rouge constate une importante baisse des décès à Monrovia, la capitale. Et en Suisse, les premiers tests d'un vaccin devraient commencer. Les autorités ayant donné leur feu vert, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les recherches se poursuivent à Bushushu suite aux inondations du week-end dernier. Des dizaines de personnes sont portées disparues. Des dizaines de corps ont pu être identifiés hier, estime la société civile. Un bilan qui n'a pas pu être vérifié de sources indépendantes.
Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de la Défense, Moïse Lida Kouassi, a été incarcéré pour des faits datant de 2012-2013. D'après son avocat, il est inculpé pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bandes armées et assassinat. Cadre du Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, Moïse Lida Kouassi avait été arrêté jeudi dernier. Le FPI qui exige sa libération dénonce l'intensification du harcèlement contre ses militants à l'approche de la présidentielle de 2015.
L'ambassade du Niger à Tripoli en Libye a été assiégée la nuit passée par des miliciens lourdement armés, un incident qualifié de gravissime par le ministère nigérien des Affaires étrangères. Le personnel diplomatique, y compris l'ambassadeur, ont été encerclés et séquestrés par des miliciens incontrôlés, ajoutent les autorités. Le président nigérien Mahamadou Issoufou appelle régulièrement à intervenir militairement en Libye, mais d'après les autorités, l'incident de Tripoli n'a rien à voir avec ces appels.
Omar El-Béchir, le président du Soudan, propose d'accueillir une réunion sur la crise libyenne. En visite à Khartoum, le premier ministre libyen Abdallah El-Thani a accepté l'idée d'une rencontre entre les principaux acteurs du conflit. Proposition qui intervient alors que le chef de l'UNSMIL, la mission de l'ONU en Libye, a fait part aujourd'hui de la grave préoccupation de la communauté internationale face à la poursuite des combats entre milices rivales dans l'Est et l'Ouest de la Libye.
Au Maroc, trois hommes qui s'apprêtaient à rejoindre le groupe État islamique ont été interpellés. D'après le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence MAP, il s'agit d'un Français, d'un Franco-Marocain, arrêté à Kenitra. L'Algérien a été interpellé hier à Fès.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les combattants kurdes d'Irak ont commencé à se diriger vers la Turquie, d'où ils comptent rejoindre les Kurdes syriens qui défendent la ville de Kobané contre les djihadistes de l'État islamique. Selon des responsables, 80 Peshmerga devaient quitter le Kurdistan irakien aujourd'hui, tandis que 72 autres sont attendus au front demain. Les combattants kurdes irakiens arriveront à Kobané à n'importe quel moment, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.
18 mineurs étaient portés disparus ce mardi au fond d'une mine de charbon du sud de la Turquie après l'inondation accidentelle d'une galerie dans laquelle ils travaillaient. C'est ce que rapporte l'AFP qui cite des sources concordantes. Cet accident survient 6 mois après la pire catastrophe minière de l'histoire de la Turquie qui avait fait 301 morts.
Deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, Donetsk et Lugansk, vont organiser dimanche des élections non approuvées par le gouvernement ukrainien et la communauté internationale. Pourtant, la Russie a averti aujourd'hui qu'elle reconnaîtrait le scrutin, défiant ainsi Kiev et ses alliés occidentaux. Lionel Gaïma.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, estime que le vote du 2 novembre contribuera à légitimer les autorités rebelles dans ces deux républiques populaires non reconnues. Il le place dans le contexte des accords de Minsk qui avaient ouvert la voie à un cessez-le-feu le 5 septembre et prévoit pour les zones séparatistes une large autonomie et non une indépendance. Le président ukrainien Petro Porochenko a dénoncé ce qu'il a appelé des déclarations mettant en danger le processus de paix censé régler un conflit qui a fait plus de 3700 morts selon l'ONU. À Washington, le président Barack Obama a déclaré lundi que les États-Unis ne reconnaîtraient pas les élections prévues dans les zones contrôlées par les séparatistes, sauf si elles sont conformes aux lois ukrainiennes et se tiennent avec l'aval du gouvernement de Kiev. L'Est ukrainien, perturbé par les affrontements entre rebelles pro-russes et forces gouvernementales, n'a pas pu voter lors des législatives de dimanche dernier, contrairement au reste de l'Ukraine. Les partis pro-occidentaux dirigés par le président Petro Poroshenko et le premier ministre Arseniy Yatsenyuk sont sortis en tête de ces législatives et négocient maintenant la formation d'une coalition.
Toujours dans l'actualité internationale, réunion aujourd'hui à Berlin des ministres des Affaires étrangères et autres représentants de 40 pays, avec pour objectif un débat sur l'aide aux voisins de la Syrie accueillant les réfugiés qui ont fui la guerre. Selon l'ONU, le nombre dépasserait les 3 millions. La Turquie et le Liban ont reçu chacun plus d'un million. L'insurrection contre Bachar al-Assad, qui a commencé en mars 2011, a contraint 6,5 millions de personnes à fuir leur maison à l'intérieur de la Syrie.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une réunion d'urgence mercredi pour évoquer les nouveaux projets de colonisation d'Israël et à Jérusalem-Est, selon des diplomates. Ces discussions urgentes avaient été demandées par la Jordanie lundi soir, après une requête du représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour. Israël a annoncé hier l'accélération des plans pour la construction de 1000 logements à Jérusalem-Est, une mesure critique par l'autorité palestinienne et plusieurs pays occidentaux.
Voilà pour le journal, 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington, chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Restez branchés pour nos dossiers du jour. Plein feu sur l'actualité au Burkina Faso. À l'appel de l'opposition, plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé ce mardi à Ouagadougou et un peu partout dans le Faso pour exiger le retrait pur et simple du projet de loi de modification de la Constitution.
Alors, trois points majeurs ont marqué cette journée. La marche, le meeting et la campagne de désobéissance civile qui a fait de la capitale burkinabé une ville morte. Nous avons sur place Zoumana Wonogo.
Le moins que l'on puisse dire est que l'opposition a réussi deux batailles ce jour, celle de la mobilisation des populations et celle faisant de Ouagadougou une ville morte. Ceci expliquant peut-être cela, le chef de file de l'opposition a dit que la lutte passe à la vitesse supérieure. On écoute Zéphirin Diabré.
Maintenant là, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Maintenant, nous avons compris que le changement, c'est maintenant ou jamais. Depuis deux ans, nous avons marché, nous avons scandé, nous avons hurlé, nous avons supplié, nous avons exhorté, nous avons interpellé et parfois même pleuré pour que Blaise Compaoré et ses supporters nous entendent en vain et en vain. À partir d'aujourd'hui, notre lutte a changé de phase. Hier, nous étions dans la phase de dissuasion. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de confrontation.
Pour justifier cette radicalisation dans la lutte, écoutons les explications du maître Benewende Sankara.
Tout simplement parce que nous avons affaire à un chef d'État têtu qui n'entend pas du tout le cri de détresse de son peuple. Nous avons, à partir de maintenant, lancé un mot d'ordre de désobéissance civile jusqu'à ce que le chef de l'État, Blaise Compaoré, retire purement et simplement son projet de loi. C'est la seule condition, c'est la seule exigence et je pense que cette mobilisation gigantesque-là doit l'amener à comprendre.
Nous avons rencontré dans la foule, cherchant à se frayer un chemin dans sa voiturette, Ismaël Traoré, il est handicapé moteur.
Si jamais je reste à la maison, c'est comme si j'acceptais tout ce qui se passait. D'ailleurs, pour les personnes handicapées, c'est dur. Je me dis, je suis une personne comme tout le monde. Il faut que je donne ma voix. Ne touche pas à ma constitution. Pour ma patrie, ça veut dire pour tout le monde. Pour mon fils, ne touche pas à ma constitution.
La marche meeting s'est déroulée sans incident, sauf pour les militants du ballet citoyen qui ont été gazés par la police quand ils ont voulu investir l'Assemblée nationale pour en faire leur camp de base en attendant le jeudi, jour du vote de la loi. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le bras de fer de tous les dangers au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré défiera-t-il ses opposants en briguant un nouveau mandat? Vos commentaires sur la page Facebook de la Voix de l'Amérique. Rendez-vous ce jeudi à 19h PU sur la VOA.
Après l'enregistrement d'un cas de fièvre à virus Ebola au Mali, et malgré le décès de la petite fille et son enterrement, la peur s'est installée dans l'esprit de bon nombre de Maliens. Actuellement, les Bamakois s'approprient certaines mesures d'hygiène et des gestes pour éviter la maladie. Kassim Traoré.
L'enregistrement du premier cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola a été une surprise pour la population de Kayes et pour cause.
Rien n'a été fait pour prévenir cette maladie. Et là, c'est une déception totale. Même l'équipe qui a été demandée à Bamako a pris 48 heures de retard pour une épidémie qui était censée prévenir au Mali.
Vous voyez, on disait qu'il y avait des sites qui étaient peut-être prévus à Kayes et environnant. Mais à la suite du classement de la maladie, ils se rendent compte que cette site n'existait même pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Dans la capitale malienne, les avis divergent sur l'existence d'Ebola au Mali. Écoutons ces deux taximans.
Quand au Mali à Kayes, l'intéressé, mais moi je le connais, il est bel et bien vivant. Ebola là, c'est faux. Ngalondo, c'est faux.
La maladie, quand même, en toute franchise, c'est une maladie très grave et contagieuse. Et tout le monde doit prendre précaution pour éviter. Enfin, moi, j'ai peur.
Face à la polémique née autour de la présence de cette maladie au Mali, certaines entreprises et services étatiques ont installé des dispositifs sanitaires comme à l'agence Bank of Africa de Banankabougou.
L'initiative mise en place, la lavage des mains avec l'eau de Javel, avec l'eau là, est très tellement sanitaire pour moi. Et je suis très satisfait, très très satisfait. Et que nous prions que toute cette maladie-là disparaisse vite et que nous soyons tous ensemble, que nous nous restons ensemble.
Pour ces jeunes étudiants, le gouvernement malien doit se réveiller afin de déclencher une véritable campagne de sensibilisation qui ne doit pas se limiter aux médias étatiques seulement.
Moi, je pense que la meilleure formule est d'informer les gens, les sensibiliser, parce que c'est une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas. Notre habitude quotidienne ne nous permet pas de faire des rencontres et de beaucoup de choses, quoi. Donc, j'aimerais que vous, les médias, de sensibiliser les uns et les autres pour une bonne approche afin que les gens soient mieux informés.
En plus des gestes qui sauvent, les Bamakois sont en train d'utiliser certains produits pour éviter la fièvre, pour éviter une contamination. Ils se réjouissent aussi des dispositifs sanitaires mis en place.
Le Mali n'avait pas encore découvert ça, mais on vient tout récemment de voir qu'un cas rencontré au Mali ici. On voit que c'est encore plus grave. Lorsqu'on prend des précautions pour ça, on verra que vraiment ça ira très 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 bien. Trop satisfait, je vais dire.
Pour barrer la route à Ebola au Mali, les actions citoyennes se multiplient, même si certaines ne sont pas encouragées par le gouvernement qui pense que les organisations de la société civile font de la surenchère autour de la maladie. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le Monde, aujourd'hui, sur La Voix de l'Amérique, chez Romain Dorcil et Morgane Guiriac en votre compagnie. Ouverture à Berlin, en Allemagne, d'une conférence internationale sur l'aide à plus de 3 millions de Syriens réfugiés dans des pays voisins comme le Liban, la Jordanie et la Turquie. Rien qu'au Liban, ils sont plus de 1 100 000, soit un quart de la population de ce pays. Et Human Rights Watch a documenté, Morgane, récemment des exactions contre eux commises par des particuliers en août et septembre dernier.
C'est à la suite des affrontements entre les militants de l'État islamique et de Jabhat al-Nusra et l'exécution consécutive de 3 soldats libanais par les extrémistes. Alors, risque de débordement d'un conflit syrien au Liban, la question posée par Idrissa Seydoudia à Nadim Houri, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch Beyrouth.
Et ce risque s'est déjà matérialisé donc l'août passé avec ces affrontements à Assal entre l'armée libanaise et les groupes extrémistes, mais aussi le week-end passé dans la deuxième ville du pays à Tripoli. Et aussi on a donc cette nouvelle hostilité et cette nouvelle tension sont en train de se manifester en réalité aussi par des exactions souvent commises par des groupes de jeunes libanais en l'envers des réfugiés syriens. Qu'ils accusent souvent à tort d'être responsables de la violence par l'État islamique ou de les accuser d'être des cellules dormantes de groupes terroristes.
Alors, le sort des deux pays, le Liban et la Syrie, semble inextricablement lié. Damas parlait de la Grande Syrie à l'intervention des troupes syriennes et l'occupation du Liban par des milliers de ses soldats, le soutien au Hezbollah et l'assassinat de l'ex-premier ministre Hariri qui a été attribué à la Syrie et le Hezbollah qui vole au secours de Bachar al-Assad. Alors, comment voyez-vous l'avenir ?
C'est une question très compliquée. Effectivement, les relations entre les deux pays sont très complexes. Et les Libanais eux-mêmes sont très divisés par rapport à ce qui se passe en Syrie, avec une partie de la population qui soutient le régime du président Bachar al-Assad et une autre partie qui s'y oppose et un groupe qui même qui soutient les rebelles. Maintenant, on ne va pas résoudre ces questions vraiment historiques et très complexes rapidement. Ce qui est important pour nous à Human Rights Watch, c'est la protection de ces réfugiés syriens qui sont venus au Liban en très grand nombre. Et aujourd'hui, le futur, s'il reste comme il est actuellement, n'est pas très positif. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait une vraie politique du Liban, mais aussi de la communauté internationale de soutien au Liban, pour que ces réfugiés puissent continuer à vivre d'une manière sécuritaire au Liban. Ceci demande plus de soutien financier au pays, mais aussi il faut qu'il y ait un vrai partage de la communauté internationale. On ne peut pas s'attendre que le Liban tout seul reçoive tous les réfugiés syriens. Comme vous l'avez indiqué, plus de 25% de la population au Liban aujourd'hui sont des réfugiés syriens.
Voilà, de Beyrouth, Nadim Mouri, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Un rapport de l'UNICEF affirme que la crise économique mondiale de 2008 a eu un impact dévastateur sur des millions d'enfants dans les pays riches. Un reportage de Lisa Schlein à Genève, présenté par Nathalie Barge.
23 pays riches sur 41 ont manqué à leur devoir de rendre la vie meilleure et non pas pire aux enfants, indique l'UNICEF. Le rapport de l'agence onusienne montre que 2 600 000 enfants ont sombré sous le seuil de pauvreté entre 2008 et 2012, portant à environ 76 500 000 le nombre total d'enfants pauvres dans le monde développé. Les pays les plus affectés sont la Grèce et l'Islande, qui ont été durement touchés par la crise financière mondiale. L'Islande en particulier a connu une augmentation spectaculaire de 20%. De manière générale, la pauvreté des enfants a augmenté de façon significative dans le sud de l'Europe, ainsi qu'en Croatie et dans les trois États baltes. L'experte en politique sociale et économique de l'UNICEF, Yekaterina Szend, précise toutefois que certains pays ont réussi à améliorer le bien-être des enfants au cours de cette période de récession.
We have Chile at the top. Child poverty there actually decreased.
Nous avons le Chili en tête, où la pauvreté des enfants a sensiblement diminué à près de 9%. Ce qui est frappant d'ailleurs est que dans les 15 premiers pays, la pauvreté des enfants a diminué précisément au cours de cette période de troubles économiques intenses. C'est on ne peut plus remarquable. L'on peut également citer parmi les pays ayant progressé la Pologne, l'Australie, la Slovaquie, la Suisse, la Norvège et la Corée du Sud. L'UNICEF attribue ce succès à la force des politiques de protection sociale, affirmant que les pays qui ont maintenu leur système de sécurité sociale ont permis d'éviter à de nombreuses familles de sombrer dans la pauvreté. Quant au cas de régression, le plus frappant est probablement celui des États-Unis, où l'extrême pauvreté des enfants a été plus prononcée durant cette récession que celle des années 80, souligne l'économiste.
This time, it's children in families where the parents are not working.
Cette fois, ce sont les enfants dans les familles où les parents ne travaillent pas qui souffrent particulièrement, et ce sont ceux-là qui généralement tombent en dessous du seuil de pauvreté. Ces familles ne sont pas vraiment aidées par le crédit d'impôt sur les revenus, contrairement à ceux qui vivent dans des familles de travailleurs pauvres. Donc, les plus pauvres ont souvent recours aux bons alimentaires. Madame Szend remarque d'ailleurs que toutes les familles indigentes aux États-Unis sont aujourd'hui plus vulnérables qu'elles ne l'étaient pendant la précédente crise, y compris les travailleurs pauvres, car ils reçoivent peu d'aide. Le rapport indique un autre recul tout aussi inquiétant à savoir que la tranche d'âge des 15 à 24 ans est particulièrement touchée en matière d'éducation, d'emploi ou de formation. Les pays de l'Union européenne subissent la pire situation avec 7 500 000 jeunes qui se retrouvent sans travail et en dehors du système d'éducation.
L'actualité sportive présentée ce soir par Timothée Dolangmaï. Salut Timothée.
Bonsoir Gabi.
Alors, qui recevra le Ballon d'Or 2014 de la FIFA? La liste des 23 joueurs vient d'être publiée.
Et oui Gabi, parmi eux, le tenant du titre Cristiano Ronaldo, mais aussi Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben et l'Ivoirien Yaya Touré. La FIFA réduira cette liste à 3 noms le 1er décembre, avant de décerner le Ballon d'Or le 12 janvier à Zurich.
La Fédération internationale a par ailleurs publié plusieurs recommandations en rapport avec l'épidémie d'Ebola et le Mondial des clubs prévu du 10 au 20 décembre au Maroc.
Selon la Fédération internationale, les préparatifs de cette compétition se poursuivent comme prévu. Elle dit soutenir la décision de la Confédération africaine de football d'organiser sur terrain neutre les matchs des pays à forte transmission du virus de l'Ebola, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. La FIFA se dit toutefois prête à revoir sa position en cas de recommandation de l'OMS. Le Maroc, on se rappelle, a demandé le report de la CAN 2015 du fait de l'épidémie d'Ebola, mais la Confédération africaine a fait savoir qu'elle maintient les dates initialement retenues du 17 janvier au 8 février.
Soutien de la Fédération française de football à Zinedine Zidane après sa suspension par la Fédération espagnole de son poste d'entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid.
Le président de la Fédération française, Noël Le Graët, dit dans son communiqué qu'il est dommageable pour le football européen qu'un joueur aussi emblématique que Zidane, qui a décidé de suivre la formation française d'entraîneur reconnue dans le monde entier, ne puisse pas exercer son métier comme le permet l'UEFA. Une plainte déposée par le président d'une école espagnole d'entraîneurs accuse l'ancien international français de ne pas disposer de la licence de niveau 3 nécessaire pour entraîner en Détroit espagnol.
Coup d'envoi ce soir, Timothée, de la nouvelle saison de basketball professionnel ici aux États-Unis, la NBA.
Et oui, Gabi, 3 matchs sont au programme. San Antonio entame la défense de son titre dans un derby texan contre Dallas. Orlando affronte la Nouvelle-Orléans et Houston joue contre les Lakers de Los Angeles.
Et il me semble qu'un jour ne se passe sans que l'on reçoive de mauvaises nouvelles pour le sport sud-africain, une nouvelle perte.
Et oui, Gabi, il s'agit cette fois-ci de la boxeuse Findile Mwelase, décédée samedi à l'hôpital après 2 semaines dans le coma suite à un combat. C'est le 3e décès à frapper le monde du sport sud-africain en moins d'une semaine avec la mort dans un accident vendredi de l'ancien champion du monde du 800 mètres, Mbulaeni Moulaoudzi, et l'assassinat dans un cambriolage dimanche du gardien de but et capitaine des Bafana Bafana, Senzo Meiwa.
Merci Timothée.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. C'était il y a 20 ans, avec classe et fracas, Nas imposait sa patte dans le rap game américain par le biais d'un album devenu culte illmatique. Pour célébrer dignement son 20e anniversaire, le King New-Yorkais proposait une édition collector contenant une foule de pistes bonus. Une des chansons fétiches de cet album, Surviving the Times. I was young, I was surviving the times, waiting for my moment, I was destined to shine. Lil Ray had an NXX, I was hoping I'm next, wanting bracelets, never had a rope.
Nas est l'un des rappeurs américains les plus influents de la scène hip-hop. Depuis ses débuts en 1994 avec l'acclamé Illmatic, Nas a écoulé plus de 25 millions d'albums et collecté des récompenses dans le monde entier.
Yes Morgan, il est régulièrement cité par la presse spécialisée comme l'un des plus brillants auteurs de l'histoire du rap. Nasty Nas a débarqué un certain 19 avril 1994, du haut de ses 20 ans, armé de sa verve rageuse, son lyrisme et sa manière bien à lui de conter des histoires. Nas écrit sur son Twitter « Avec Illmatic, je ne pensais à rien, je l'ai juste fait, avec mon instinct. Aujourd'hui, je suis toujours l'homme de ce passé et je lui suis reconnaissant. » Il y a un proverbe nigérien qui dit « Le passé est un problème. »
nécrologue. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à Ilma Sika.
Ness, Surviving the Times. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie,
Roger
Morgane.
Que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Et voilà, c'est la fin de cette édition, mise en onde par Joselle Morissin avec M. Santos à la console technique.
Un grand merci à toute la rédaction. Nous attendons vos messages sur Facebook et n'oubliez pas notre nouvelle adresse internet voaafrique.com.
Ici Chérubin Dorsil
et Morgane Guiriec.
Bonsoir. Didn't want us. Russell said I sounded like G to confront it. Reef and Maddie C offered me a little money. Shit a little funny. Feel a little laughter. Rebel love hip hop. Coming through a white rapper.